Alors, on a notre incontournable chroniqueur Fred Savard. Ça a l'air que dans le deal, là, on vient de sortir 800 millions de Montréal pour financer des problèmes de transport à Québec. Je comprends qu'ils ont aussi. Moi, je suis ravi qu'on s'entraide, il n'y a pas de problème. Mais ils font quoi avec, là?
Bien là, tu parles du tramway, le 800 millions qui devait être pour Montréal, que Montréal a décidé de donner à Québec. Mais là, il y a une nouvelle annonce. Hier après-midi ou ce matin, mais je pense hier après-midi, mais bon, c'est sorti dans les journaux ce matin. Le fameux troisième lien qui va avoir ça va être un tunnel. Et là, moi, je trouve que sortir ça de même le 27 juin, les gens sont semis en vacances, là, on sort du pont Champlain, l'annonce, tout ça. Je trouve ça étrange parce que c'est une grosse affaire, là. C'est au moins 4 milliards. En fait, on ne sait pas parce que là, le ministre Bonnardel n'a pas annoncé de comment ça allait coûter, on n'a pas annoncé, il n'y a aucun détail en fait. Ils ont juste annoncé qu'on va de l'avant, il y aura un tunnel qui va relier la Rive-Sud à la ville de Québec.
Mon expérience, je ne suis pas comptable, mais je peux te dire que quand on part de 4 milliards, ça finit
mais
à 10.
Il faut comprendre que le 4 milliards, oui c'est ça, le 4 milliards, ça c'est une étude en 2016 de faisabilité, okay,
on veut dire.
C'est
on
même
est
pas,
déjà
le gouvernement n'a même pas parlé de comment ça allait coûter, combien de voies, comment on va construire ça. C'est juste...
Et on ne savait même pas que ça serait un tunnel à ce moment-là.
Tout à fait. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'irresponsable là-dedans, parce que les études, toutes les études qui ont été faites, c'est les libéraux qui ont amorcé la réflexion, c'est pas la CAQ, et les études démontraient que il n'y a pas de besoin urgent d'un troisième lien. En fait, on aurait pu favoriser le transport en commun de toutes sortes de façons, mais pas un nouveau pont ou un nouveau tunnel. On parle de 12 000 passages par jour. Si vous voulez une comparaison là, avec Montréal, évidemment, on ne compare pas Québec à Montréal, mais le pont La Fontaine, c'est à peu près 135-140 000 passages par jour. Le pont Champlain, 150 000. Donc, 10 fois moins de passage, okay. Et on va construire une infrastructure qui va sûrement coûter, pas 4 milliards, mais 7, 8, 9, 10 milliards,
ben,
probablement.
8 milliards, c'est les surplus qu'on a dans nos coffres québécois en ce moment. Bon. Ça va tout partir sur un tunnel.
Et je vous ai parlé en début de semaine du grand dossier sur les routes du Québec, du Journal de Montréal, et les experts sont assez clairs. C'est 16 milliards présentement qui manqueraient juste pour entretenir le réseau existant. Fait que là, on construit un nouveau, des nouvelles infrastructures. Va falloir les entretenir. Ça veut dire, les études l'ont démontré aussi, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Quand on construit des routes, des ponts, il y a plus de chars ces routes. C'est ça que ça fait. C'est que ça dit le message aux gens, let's go, on a une nouvelle route. Les gens se disent, ah ben on va pouvoir... En fait, ça favorise l'attellement urbain. C'est ça que ça fait. C'est que là, les gens vont s'installer à la sortie du tunnel de plus en plus. Où il y a des autoroutes, les gens s'installent. Donc, plus de chars parce qu'on s'éloigne des grands centres, on travaille, on a besoin d'une deuxième voiture. S'il n'y a pas d'infrastructure en transport en commun.
Si on est installé, je pense égoïstement à moi, là, je reste dans la Naudière, là. Oui, besoin de pont pour m'en venir. Moi, je serais.
Mais oui, mais je dis pas que ça n'en prend pas. Je dis pas que ça n'en prend pas. Mais quand on construit de nouvelles infrastructures et qu'on réfléchit pas à des façons d'optimiser le réseau avec des alternatives en transport, dont le transport collectif. Je dis pas aux gens d'arrêter de prendre leur voiture. Mais là, ce projet-là va à l'encontre de la grande tendance quand on sait ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Et c'est surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que les études démontraient qu'il n'y avait pas de besoin. Donc, le gouvernement n'écoute pas la science et les faits. Ils se disent, non, on va de l'avant. C'est une mesure politique. C'est pour consolider la base politique de la CAQ qui est à Québec. On sait que les radios...
C'est un peu populiste, là.
Moi, je pense que oui. Moi, je suis pas mal certain que c'est ça, dans le fond. Et de l'annoncer comme ça en catimini, après la session parlementaire aussi, donc il n'y aura pas de débat en chambre là-dessus.
Se méfier des annonces qui veulent pas trop entendre résonner.
Et Québec est une ville déjà bien pourvue en autoroute. C'est la deuxième ville la mieux pourvue. Le ratio kilomètre par habitant, là, c'est la deuxième ville avec la plus haute moyenne. C'est Calgary qui est numéro un. Fait que le réseau existe. Je dis pas qu'il y a pas de problème de circulation à Québec. C'est pas ça que je dis, là. Mais là, on parle d'une nouvelle structure. C'est pas une structure de remplacement. C'est une nouvelle qui coûte très cher.
Tu n'es pas le problème, tu voudrais juste une autre solution.
Mais ce gouvernement-là semble beaucoup vouloir démontrer qu'il est capable de faire des choses, mais des fois, on tourne les coins ronds, et dont on ne tient pas compte des études. La loi sur la laïcité, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un débat qui devait se faire et qui devait se... Il n'est pas réglé, mais on devrait faire... Mais on a oublié des grands pans par rapport à la loi sur la laïcité, sur les congrégations religieuses, tout l'argent, tout l'aspect foncier des congrégations religieuses, la loi sur la laïcité touche pas. T'sais, on a botché ça un peu. On a l'air d'un gouvernement qui fait des choses rapidement et qui est efficace, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'irresponsable là-dedans pour les générations futures, entre autres, pour cette infrastructure-là qui ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. On s'entend, il va y avoir plus de chars, c'est sûr. Faut arrêter quand on est en circulation, là, quand on est poigné dans le trafic. Faut arrêter de dire qu'il y a du trafic. Nous sommes le trafic quand on
oui,
est.
Oui, oui.
Fait quand on construit des nouvelles
c'est
routes.
Vrai qu'on est c'est fâché devant
les autres
qui nous bloquent le passage en avant, mais il est dans la même situation que nous autres. Là,
mais c'est démontré, quand on construit une nouvelle route, ça crée de nouveaux bouchons.
Ça attire d'autres
mondes. Oui. C'est pas vrai. Et le ministre Bonnardel dit non, ça va désengorger. Je vous le dis, là, ça sera pas le cas. Dans quelques années, on va le voir. Ça va juste engorger ce secteur-là encore plus.
Ça va créer un peu plus d'étalement urbain, donc ça va re-remplir le troisième ligne, puis on va penser à un quatrième.
Sûrement. Ce qui serait bien, par exemple, ce serait de connecter le tunnel avec le centre Vidéotron pour que ces deux éléphants blancs-là, qui ont été construits un peu pour faire de la politique, parce qu'il n'y avait pas de club à Québec non plus, il n'y en a toujours pas, ça reste à date un éléphant blanc qui fonctionne pas à l'année, là, côté taux d'occupation.
Il n'y a pas d'équipe.
Voilà. Fait que, et ça, c'est des fonds publics, c'est ça le problème. C'est, on va tous payer ça. C'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on en parle. Les problèmes de trafic à Montréal, on s'en fout, là, ce qui se passe à Québec, là, ça ne nous touche pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais sauf que
ça. Ceci dit, le centre Vidéotron, ça a été sous le PQ. Là.
Mais c'était là. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes motifs. Là. C'est-à-dire pour des motifs politiques, de plaire, aller chercher du clientélisme politique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Puis on peut plus faire ça. Collectivement, avoir ces projets-là, je pense.
Faut aller
au-delà de ça, à mon avis.
Très bien. Tu veux-tu nous parler aussi de pénurie de logement?
Oui, parce qu'on est dedans, malgré, encore une fois, la ministre Proulx qui disait non, il n'y a pas de... Nous, en tout cas, nos indicateurs indiquent qu'il n'y a pas de crise du logement. Et là, les déménagements, on va être dans le week-end, c'est le 1er juillet. Et on parle à Montréal d'un taux d'inoccupation de 1,9% seulement de logements disponibles. Ça prend 3% pour qu'on puisse combler la demande. Et là, on est vraiment en dessous de ça, à 1,9. Difficile de chiffrer combien de gens sont...
Moi, je peux te le dire d'où je travaille. Là, d'habitude, là, il y a des gens qui s'en viennent dans la rue.
Oui.
Des gens qui travaillent. Des gens qui ont des jobs.
Mais c'est ça. Moi, c'est ça qui me...
Des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale. C'est monsieur, madame, tout le monde qui tranquillement est jeté à la rue.
C'est ça que je trouve... très difficile à accepter dans une société comme la nôtre. Et là, je comprends là, qu'il y a l'offre et la demande, le boom immobilier, tout ça. Il y a une création de richesse. Mais je peux pas croire en 2019, dans une société comme la nôtre, qu'il y a des gens, comme tu dis, qui travaillent ou des gens à faible revenu qui sont sur le bord d'être dans la rue parce que il y a un laisser-aller immobilier qui fait en sorte qu'il n'y a plus de logements disponibles. Et c'est pas vrai que tout le monde peut facilement dire il n'y a pas de loyer à Montréal, ben je vais aller déménager en banlieue. Peut-être qu'il y a de la place.
Parce qu'à Montréal, c'est rendu plus abordable.
Entre autres.
Tu payes 1800 pour un 4,5.
Oui, mais c'est ça. Il y a des raisons pour ça. Je suis pas un expert de la chose, mais il y a un impact qu'on est en train de mesurer. C'est Airbnb.
Ben oui, moi j'ai des chums qui passent leur temps à régie parce que le propriétaire essaie de les mettre dehors sous prétexte qu'il veut reprendre ça pour sa famille.
Oui.
Mais le logement du haut, c'est pas sa famille qui est dedans, ou en tout cas la famille elle change à tous les deux jours.
Voilà. Là, c'est ça. C'est que c'est Airbnb, c'est ce que ça fait, c'est qu'il y a des propriétaires. Puis, tu sais, on est dans l'air, ça ressemble à Uber un peu ce soir-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'économie de partage, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces compagnies-là utilisent économie de partage.
C'est un slogan de marketing.
C'est ça. On a l'impression que, on devient tous un petit peu entrepreneur avec sa voiture, avec si on est propriétaire, avec un de ses logements, et on peut aller chercher un revenu d'appoint. Mais ce qu'on se rend compte, à Montréal, entre autres, parce que Montréal est le marché numéro un Airbnb au Canada. C'est à Montréal qu'il y a le plus d'inscriptions sur Airbnb. Parce qu'on le sait, Montréal, ville festive, le Grand Prix de Formule 1, les festivals, toutes les activités l'été. Alors, les propriétaires se disent, moi, en quelques jours, une semaine, je peux payer toute mon hypothèque de mon logement avec de mon plex, avec des logements. Je vais pas mettre ça sur le locatif, je vais laisser ça sur Airbnb. Et là, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent, ce sont des entreprises étrangères, américaines, qui gèrent plusieurs logements à Montréal, mais des centaines de logements. Et ils créent de faux profils sur Airbnb. Et on a l'impression qu'on loue à un particulier. Donc, on est dans l'économie de partage. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on loue à une compagnie qui gère un parc locatif pour Airbnb, avec l'aide d'Airbnb. Alors, c'est un réel problème.
C'est sorti publiquement. Il y a des réseaux de gangs et de pimps qui font travailler leurs filles là-dedans, si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, tout à fait. Puis moi, ce qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est qu'on est comme dépassé, un peu comme Uber. C'est-à-dire que le gouvernement voit ça comme une technologie incroyable, et là, on déréglemente.
Quel est le pouvoir de ces gens-là qu'on accepte qu'ils payent pas d'impôts quand ils rentrent chez nous? avec leur business multimilliardaire.
Mais ça, c'est cette idée, Dan, d'évasion fiscale qui est légale, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est légal.
Parce que le danger, c'est qu'on est en train de s'y habituer. C'est censé être un crime.
Tout à fait.
C'est pas parce qu'il y a des loopholes dans la loi de l'impôt que ça devrait être beau.
Sauf que alors, là, c'est une concertation internationale que ça prendrait, parce qu'un seul acteur comme le Canada, encore pire, le Québec, qui est une province dans un pays, mais a pas un levier pour changer ces lois-là sur le plan international, mais ça prend une concertation. Mais tu sais, l'évasion fiscale, c'est pas le sujet de cette chronique-là, mais on en parlera sûrement cet été, parce que moi, je trouve que c'est le problème social numéro un. Oui. C'est les milliards qui nous échappent, que cet argent-là qui ne retourne pas dans le filet social, entre autres, dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans l'entretien des routes, si on veut parler encore de routes.
Ces gens-là, comme Airbnb, ne payent pas leur part d'impôt.
Ne payent pas d'impôt. Et là, les gouvernements, on dirait, ferment les yeux parce qu'on se dit, oui, mais les particuliers, ça leur permet d'aller chercher un revenu. Donc, cet argent-là va retourner dans la collectivité par le fameux ruissellement de la richesse, qui est un concept qui n'existe pas, à mon avis. Cet argent-là est plutôt... en fait, oui, ça se peut que des propriétaires fassent de l'argent.
C'est pas du ruissellement, c'est de l'évaporation par le haut.
T'sais, je veux pas lancer la pierre aux gens qui ont des duplex puis qui décident de les mettre sur Airbnb. Là. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre législatif qui empêche ça le plus possible. Ou si vous voulez le faire, il va falloir payer vos impôts. Je sais que ça existe déjà, mais la loi, elle est laxiste et c'est pour ça que des entreprises réussissent à en profiter. Mm-hmm. Le gouvernement est toujours en retard sur ces affaires-là, de toute façon. Ces compagnies-là, comme Airbnb, ben, ils sont hyper agressives. On achète des lobbyistes aussi pour assouplir les lois, pour essayer de montrer à la population et au gouvernement que la présence d'Airbnb dans une ville, ça amène du tourisme, donc des retombées économiques. Mais dans les faits, c'est que ça crée une pénurie de logements et ça fait des logements vides aussi. Ça fait des quartiers où il n'y a pas de vie de quartier. On peut s'en foutre de ça.
Ils font de l'argent en louant deux jours, puis après ça, s'il n'est pas occupé pendant deux semaines, c'est déjà payé.
Ben exactement. Et nuisance, parce que c'est souvent des fêtards. C'est pas toujours des petites familles, tu sais, qui veulent aller au marché des Jean Talon. Là, des fois, c'est donc les voisins n'aiment pas ça. Fait qu'il faut réfléchir à ça. Et puis j'ai pas de solution là, aujourd'hui. C'est pas. Mais je trouve ça très inquiétant qu'on devienne une ville où il va être difficile de se loger, où de plus en plus de gens avec des revenus, parce que là, c'est des faibles revenus. Après ça, ça va être la classe moyenne. Tu sais, faudrait pas qu'on arrive comme en France où des cas d'infirmières ou des professeurs vivent dans le char pendant quelques mois parce qu'ils sont pas capables.
Ouais,
parce qu'ils sont pas capables de trouver du logement. Exactement. Alors, il va falloir que le gouvernement arrête de voir ça comme la technologie du futur, puis que l'économie du partage, tout le monde va en profiter, parce que c'est pas vrai. Là, c'est des entreprises étrangères, en plus, qui se servent du parc locatif montréalais pour faire du profit.
Clairement ça.
Voilà.
Est-ce que je suis soulagé?
Bien. Non, ben des fois, l'été, on a l'impression qu'il faut pas traiter ces sujets-là, puis moi, je pense que non, il faut le faire.
Non, tu fais bien, puis gars, t'es pas obligé d'arriver avec des solutions à tout. Des fois, il faut soulever un problème, tu l'as très bien fait.
J'aurais pas des solutions à chaque jour, Dan, cet été, ça, je peux te le dire.
Mais le fait de soulever le problème, c'est le début pour chercher une solution. Si on n'a pas de problème, on ne cherchera pas.
On s'en
met les graines. Merci beaucoup, mon Fred.
De rien.
Restez avec nous parce qu'après la pause, ça va être la super chroniqueuse culturelle Valérie Roberts qui va être avec nous. Elle va nous parler des festivités pour la Fête du Canada et des spectacles présentés au Festival de Jazz. À tout de suite.